Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici le troisième et dernier épisode de ma série de podcasts consacrée à l'affaire Ranucci. Je vous ai raconté dans le premier épisode l'enquête après le meurtre de Marie-Dolores Rambla en 1974, jusqu'à l'exécution en 76 de Christian Ranucci. Dans le deuxième épisode, vous avez découvert l'imposture du livre Le Pullover Rouge. Et aujourd'hui, dans le troisième épisode, les conséquences de tout ça. Ce moment où Jean-Baptiste Rambla, le petit frère de Marie-Dolores, devient à son tour un meurtrier et même un double meurtrier. J'ai tiré mon podcast d'une série documentaire de Canal+, disponible sur MyCanal, Dolores, la malédiction du pullover rouge, réalisé par Julien Serry. Voici donc notre troisième et dernier épisode. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans les épisodes précédents, le 3 juin 1974, Marie-Dolores Rambla, 8 ans, est enlevée dans une cité de Marseille. Son petit frère Jean-Baptiste, 6 ans et demi, est le seul témoin de l'enlèvement.
Le monsieur est arrivé avec une voiture, il m'a appelé avec ma soeur. Après, il a dit que je cherche le chien.
Il avait perdu son chien?
Oui. Après, il a dit que je passe par là-bas et ma soeur le reste là.
Et alors, tu es parti chercher le chien?
Oui.
Et ta sœur est restée avec le monsieur?
Oui.
Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là? Et ta grande sœur non plus?
Non.
Le surlendemain, le corps de sa petite sœur est retrouvé lardé de coups de couteau. Dans la foulée, Christian Ranucci est arrêté. Il avoue, puis se rétracte. En mai 1976, Christian Ranucci est condamné à mort et guillotiné le 28 juillet 1976 à l'aube. 2 ans plus tard, en 1978, sort le livre de Gilles Perrault, Le Pullover Rouge. Un livre truffé de contre-vérités qui fait de Christian Ranucci le martyr du combat pour l'abolition de la peine de mort. Les Rambla se lancent alors dans un long combat perdu d'avance pour ne pas se faire voler leur histoire douloureuse. Enfant puis adolescent, le petit Jean-Baptiste grandit de travers. Coincé entre la culpabilité d'avoir assisté à l'enlèvement de sa sœur et une société française qui, au prétexte d'abolir la peine de mort, veut réécrire l'histoire du drame de sa vie. Un samedi matin de février 2005, à Marseille, Patricia, qui depuis quelque temps partage la vie de Jean-Baptiste, va dans le cabanon au fond de son jardin. Et quand elle entre, elle sent une odeur de charogne.
Mais qu'est-ce que c'est cette odeur? D'où ça vient?
Elle bouge des cartons et elle tombe sur un grand sac de sport. Elle le reconnaît, ce sac. C'est Jean-Baptiste qui l'a ramené l'été dernier. C'est les affaires d'un de mes amis. Et tu touches surtout pas. D'accord? Il y a des produits dangereux à l'intérieur. Tu ne t'en occupes pas. Sauf que là, il pue. Alors elle l'ouvre. Il y a un cadavre à l'intérieur. Un cadavre de femme. La PJ de Marseille débarque dans le cabanon et dans la foulée, le légiste.
Eh bien, dis donc, il y a de la vie là-dedans. Vé les asticots. Il n'est pas d'hier, ce cadavre.
Des asticots et des insectes macrophages, des insectes mangeurs de chair humaine. Dites, docteur, vous pourriez essayer de sortir le cadavre du sac?
Et je vais essayer, mais... ça va pas être facile, elle est pliée en trois, là, la gonzesse. Ça y est.
Et au premier abord, qu'est-ce que vous diriez, docteur?
Au premier abord, des traces de strangulation. Là, c'est bien clair. Et je crois bien qu'on a une fracture de l'osioïde. Oui.
Dites, madame, vous savez qui a mis ce sac, là?
Oui. C'est mon compagnon, Jean-Baptiste Rambla.
D'accord. Vous pouvez l'appeler et lui demander de venir, mais sans éveiller ses soupçons, bien sûr.
Vous pouvez faire ça?
Oui.
Oui, je vais le faire.
Allô?
Jean-Baptiste ? C'est Patricia à l'appareil. Dis, tu pourrais venir à la maison ? Oui, il y a une fuite d'eau. Faudrait faire quelque chose. D'accord. Je t'attends.
Quand Jean-Baptiste Rambla arrive, les flics de la PJ l'attendent devant la maison.
Monsieur Rambla ? Monsieur Rambla, vous êtes en état d'arrestation. Vous n'avez pas l'air surpris.
Non ?
Non, je ne suis pas du tout surpris. C'est moi qui l'ai tué. Je vais tout vous expliquer.
La victime s'appelait Corinne Biden. Avec son mari Christian, elle tenait ce petit restaurant itinérant sur les plateaux de cinéma dans lequel Jean-Baptiste était employé. Elle était portée disparue depuis 7 mois. Jean-Baptiste Rambla est immédiatement emmené au siège de la CRIM de Marseille. Et le voilà face à un policier.
Bien, monsieur Rambla, je vous signifie votre placement en garde à vue à la demande du procureur de la République pour une durée de 24 heures reconductible.
À ce moment-là, un de ses collègues entre dans le bureau et il se penche à son oreille.
T'es au courant de qui c'est ce gars ? Rambla. Ça te dit rien, Rambla ? C'est le frère de la petite Marie Dolores qui a été assassinée en 74 par Annucci. C'est fou, cette histoire. Maintenant, c'est lui l'assassin.
Voilà. Tout le monde est au parfum.
Bien, monsieur Rambla. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'abord sur les faits pour lesquels vous êtes incriminé, à savoir le meurtre de madame Biden? D'abord, est-ce que vous reconnaissez les faits, comme vous en avez manifesté l'intention lors de votre interpellation?
Oui.
Oui, je reconnais les faits. Et je vais tout vous raconter. Jusqu'à il y a 7 mois, je ne sais plus exactement la date, mes relations avec mes employeurs, Corinne et Christian, étaient très bonnes sur les tournages. On vivait comme une petite famille. J'ai fait mon dernier contrat chez eux en novembre de l'année dernière. Et puis on s'est quitté sur un désaccord et sur le montant de ma rémunération. Et puis aussi parce que j'étais déclaré que quand ça les arrangeait, quoi. Ça, c'est le contexte, monsieur Rambla. Est-ce qu'on peut passer au fait ? Oui, mais c'était important que je resitue le contexte. Un matin, Corinne est arrivée. Je lui ai servi un café et on a discuté de mon avenir au sein de la société. Et je lui ai demandé d'intervenir auprès de son mari pour qu'il me déclare, officiellement. Et elle m'a fait des remarques et je les ai très mal prises. J'ai haussé le ton pour essayer de l'impressionner. Et après, je l'ai prise entre mes mains et j'ai serré très fort. C'était moi, hein. Mais dans ma tête, c'était plus moi. J'étais en transe. Son crâne a frappé lourdement le carrelage. Et là, j'ai paniqué. Elle ne bougeait plus. Elle ne parlait plus. Je ne savais plus si elle était vivante ou si elle était morte. Et puis j'avais trop peur. Je pensais à mes parents. Je pensais à ma sœur. À tous les gens que j'aime et puis au mal que j'allais leur faire avec la connerie que je venais de faire. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui m'a pris. Et c'est là que j'ai pris la décision de me débarrasser du corps.
Il raconte qu'il a commencé par mettre le cadavre de Corinne dans sa baignoire, qu'il l'a arrosé d'essence et qu'il y a mis le feu. Il y avait de grosses flammes. Mais le corps n'a pas brûlé. Je l'ai gardé 2 ou 3 jours à la maison. Et je ne savais plus quoi faire. Alors je l'ai mis dans 2 ou 3 sacs poubelles noires. Et après, je l'ai replié dans le sac de sport. Et puis, j'ai décidé de le mettre dans le jardin de la maison de ma femme, en attendant de décider ce que j'allais en faire définitivement.
Pourquoi est-ce que vous avez transporté le corps de Bidel Corinne au domicile de votre ex-femme, monsieur ? Ce qui, inévitablement, allait conduire à votre arrestation. Alors qu'il était plus facile pour vous de le transporter dans un lieu isolé.
Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je ne me l'explique pas. Peut-être que quelque part, j'espérais que quelqu'un le trouve. Et que quelqu'un me trouve. Mais comment votre ex-femme ne s'est pas rendue compte de l'odeur ?
Elle croyait que c'était un animal mort. Et puis l'odeur, vous savez, elle n'était pas si présente que ça. Le sac était neuf et bien fermé.
En vérité, pendant les 7 mois qui ont suivi la disparition de Corinne Bidel, les policiers se sont intéressés 2 fois à Jean-Baptiste Rambla. 2 fois, ils l'ont convoqué. 2 fois, ils l'ont interrogé. Et 2 fois, ils l'ont relâché. Parce que c'était le petit Rambla. Et aussi parce qu'il n'était pas certain qu'il était arrivé quelque chose à Corinne. Elle avait envoyé un SMS à son fils pour lui dire qu'elle partait à Ibiza. Jean-Baptiste Rambla reconnaît que c'est lui qui a écrit ce SMS juste après le meurtre.
Et ensuite, monsieur Rambla, une fois que vous avez mis le sac dans le cabanon, vous avez continué à travailler pour monsieur Chalençon, le compagnon de madame Bidel.
Oui, oui, j'ai continué. Servir sur les tournages, comme si de rien n'était.
Il a fait mieux que ça, et plus fourbe que ça. Il est devenu le confident de Christian Chalençon. Il est allé manger régulièrement chez lui, il est devenu son ami. Et plusieurs fois, il lui a demandé. Et l'enquête, elle avance ? Jean-Baptiste Rambla est jugé en octobre 2008 pour le meurtre de Corinne Bidel. Et son père est là, bien sûr, dans ce palais de justice où il y a 30 ans, il a vu condamner Ranucci pour l'assassinat de sa petite fille. Il sait, le père, les traumatismes que son fils a vécu. Le pull-over rouge, les brimades à l'école, les menaces au téléphone. Mais il ne comprend pas. Il passe le procès la tête entre les mains. Et au correspondant d'Europe 1, Roger Ardouin, il dit «
Ranucci, il m'a pris mes 2 enfants. Il m'a pris mes 2 enfants. »
À ce procès, il y en a un autre qui voudrait comprendre. Adrien, le fils de Corinne. Pourquoi est-ce qu'il a tué sa mère ? Dès le début du procès, Jean-Baptiste ne lui laisse pas beaucoup d'illusions.
Depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je n'ai plus d'avenir. Et je suis transparent.
Et là, il s'assoit. Et il décide de ne plus rien dire.
Rien.
À la fin, l'avocat général fait preuve d'une certaine mansuétude.
Au regard de son histoire personnelle, je vous demande de condamner Jean-Baptiste Rambla à une peine de 18 années de réclusion criminelle.
Et il emporte la conviction des jurés qui lui accordent des circonstances atténuantes et le condamnent effectivement à 18 ans de prison. Et le père Rambla reçoit à nouveau, comme il y a 30 ans, des lettres anonymes. « Maintenant que ton fils a commis un meurtre, tu dois être bien content que la peine de mort soit abolie. Décidément, rien ne sera jamais épargné à cet homme. » En prison, plusieurs fois, les psys proposent à Jean-Baptiste de parler. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose de complexe, de très complexe dans ce garçon. Peut-être un traumatisme initial lié à la mort de sa sœur. Et pourquoi pas un sentiment de culpabilité, lourd, trop lourd. J'ai rien à vous dire. Rien du tout. Ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit. J'ai pris 18 ans, je fais ma peine, basta. Je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me donnez la réponse, je vous dis ce que vous voulez. Pourquoi il a pris ma sœur? Pourquoi il m'a pas pris moi?
Il a eu tort de ne pas tenter une thérapie. Il a eu vraiment tort. Son père est mort. Pierre Rambla s'éteint le 10 septembre 2013, à l'âge de 88 ans. Il part avec tous ses malheurs. En juillet 2014, après 10 années passées derrière les barreaux, Jean-Baptiste Rambla fait une demande de libération conditionnelle. Il a exécuté plus de la moitié de sa peine, il a eu un bon comportement en détention, conditionnel accepté. Il sort de prison en février 2015. Il a 48 ans. Et comme il est interdit de séjour à Marseille, il va s'installer à Toulouse. Et il entame une formation de plombier chauffagiste, un CAP. 2 ans plus tard, il passe son examen.
Bien, monsieur Rambla. J'ai la joie de vous annoncer que vous avez été reçu à votre CAP. Monsieur Rambla, et bonne nouvelle, vous avez une promesse d'embauche. Félicitations.
Il commence son nouveau boulot, mais il finit par se fâcher avec son patron. Il s'enferme chez lui. Et puis un jour, il va acheter de la cocaïne. Je ne vous l'ai pas dit, mais il en consommait aussi avant la prison. Et puis il va sur Internet. Il s'achète un taser, vous savez, cette arme qui envoie des décharges électriques. Un matin de juillet 2017, il glisse un cutter dans sa poche et il sort. Il se rend dans le quartier Arnaud-Bernard. Il s'assoit sur un banc et là, il lève la tête. Et sur un balcon au premier étage, il voit une jeune femme, noire, en train de téléphoner. Il se lève, il pénètre dans son immeuble, il monte à l'étage par l'escalier et il va sonner à la porte de cette femme qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vue. Elle lui ouvre. Et là, il se jette sur elle. La jeune femme est retrouvée morte 6 jours plus tard. Elle a été frappée et égorgée avec un cutter. Elle s'appelait Cynthia Lunimbu. Elle avait 21 ans. Le cadavre de Cynthia est découvert 6 jours plus tard.
Le 27 juillet, Cynthia, une jeune femme de 21 ans, était retrouvée égorgée dans son appartement du quartier Arnaud-Bernard, à Toulouse. La police vient d'interpeller un suspect de 49 ans. L'homme n'est pas un inconnu des chroniques judiciaires. Il s'agit de Jean-Baptiste Rambla, qui avait assisté en 1974 au kidnapping de sa sœur Marie-Dolorès, 8 ans, dans l'affaire du pull-over rouge.
L'affaire du pull-over rouge. Décidément. Et donc le voilà à nouveau en garde à vue. Monsieur Rambla, je vous informe que vous avez le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous sont posées, ou de vous taire. Je vais répondre à vos questions. Bien. Est-ce que le prénom de Cynthia vous dit quelque chose? Ah non. Je ne connais pas Cynthia. Avez-vous eu un rapport sexuel avec une jeune femme d'origine africaine le jour des faits? Ah non, je suis jamais sorti avec une blague. Le policier sort alors une photo qu'il pose sur la table. Je vous informe, monsieur, que cette personne, de son vivant, s'appelait Cynthia Lunimbu. Et notre enquête a permis de déterminer qu'elle a été tuée le 21 juillet 2017 entre 12h et 19h. Ça ne vous évoque toujours rien? Non. Je la connais pas. Je sais pas où elle habite. Je vois pas pourquoi j'aurais commis un meurtre. Faut un mobile pour commettre un meurtre. Bien. On va avancer un peu.
je vais vous montrer un extrait d'une vidéo prise par les caméras de la ville de Toulouse. Regardez, regardez. Est-ce que vous vous reconnaissez, là? C'est quelqu'un qui me ressemblait. Mais ce jour-là, je tournais dans le quartier. Vous avez été en contact avec Cynthia le 21 juillet, monsieur Ramblin. Nous pouvons même vous dire que vous étiez à l'intérieur de son appartement. Ah bon? Mais je voudrais bien savoir comment. Moi, je la connais pas, cette fille. Je vois pas comment j'aurais pu aller chez elle. Le mot ADN, monsieur Ramblin, ça vous parle? Des prélèvements ont été effectués à l'intérieur du domicile. Et votre ADN a été mis en évidence sur la poignée extérieure de la salle de bain, sur le pommeau de la douche et sur le sang prélevé sur la poignée de la porte d'entrée, ainsi que sous les ongles de la victime. Regardez bien, monsieur Ramblin. Voici une photo de la scène de crime. Regardez. Vous voulez savoir comment elle est décédée? Dans quelle souffrance? Je suis victime d'une machination. Mais Jean-Baptiste Ramblin a bien compris qu'avec son ADN dans l'appartement, il n'allait pas pouvoir tourner longtemps autour du pot. Alors il craque. Il avoue. Et ce qui est intéressant dans ses aveux, c'est pas le pourquoi, il ne s'expliquera jamais là-dessus. C'est le comment. Je suis monté. J'ai frappé. Je savais pas si c'était chez elle. Elle a ouvert. Et là, je sais pas, j'ai basculé. Je l'ai poussé, elle est tombée, je l'ai frappé. Elle a perdu connaissance. Mais moi, à ce moment-là, je la vois pas, cette femme, enfin. Je veux dire, je la vois pas, elle. Je les vois tous. Je les vois tous. Qui tous, monsieur Ramblin? Tous! Et après, il lui tranche la gorge avec un cutter. Et il la décapite pratiquement, au point que sa tête ne tient plus que sur quelques centimètres. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer chez vous une telle rage, monsieur Ramblin? Je sais pas! Vous aviez l'intention de la tuer en arrivant chez elle? J'ai pas d'explication. Alors, dans le cadre de l'enquête, on se tourne vers les experts psychiatres pour tenter de comprendre. Le premier se demande s'il n'est pas passé à l'acte pour en subir les conséquences judiciaires, pour souffrir. Et le second dit qu'il se dégage derrière l'homme de 54 ans, un petit garçon. La blessure d'un petit enfant. Et à un moment donné dans l'entretien, Jean-Baptiste lui dit
« S'il faut en arriver là pour se faire entendre, alors ?»
Le procès de Jean-Baptiste Ramblin s'ouvre le 14 décembre 2020 à Toulouse. Il est là, recroquevillé sur son banc. Il a l'allure d'un pénitent. Il a reconnu les faits. Il sait qu'il est récidiviste. Il sait donc qu'il va en ressortir avec perpète, ou au minima 30 ans. Mais va-t-il enfin expliquer ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là? Le président commence par exposer les faits. Et là, un cri déchirant fiche tout le monde. C'est la maman de Cynthia.
Mais qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Pourquoi tu l'as tué? Tue-moi!
Des policiers l'évacuent de la salle d'audience et elle continue de hurler sa douleur dans la salle des pas perdus. Suspension d'audience. À la reprise, le président décide d'interroger l'accusé et il parle, plutôt à l'aise.
Je me suis jamais senti à ma place. Dans ma vie, j'ai toujours eu ce sentiment-là, l'impression que je me lassais vite des choses. Des rêves d'enfant, je n'en ai jamais eu. J'ai eu mon cauchemar.
Sur votre personnalité, monsieur Ramblin, vous avez envie de nous dire quelque chose ?
Oui.
Vous savez, moi, monsieur, je suis le frère de la victime. Mais dans l'esprit, déjà, mon témoignage innocente celui qui a tué ma sœur. Et ça me ronge. Ce livre-là, le pullover rouge, ça a fait l'effet d'une bombe. Moi, tout à coup, je suis devenu le coupable. Mon témoignage était essentiel parce que j'étais le seul témoin de l'enlèvement. Mais on m'a pas protégé. On m'a dit, passe à autre chose. Mais c'était pas facile, quand c'est dans votre chair. Le livre de Gilles Perrault, j'en vomissais. Et pendant 6 mois, j'ai eu des piqûres tous les jours. Et puis en grandissant, on vous dit, comment ça se fait que tu l'as pas reconnu, Ranucci? Ils ont voulu en faire une erreur judiciaire. Mais l'erreur judiciaire, il n'y en avait pas. Si le livre il n'était pas sorti, nous, on aurait pu faire notre chemin. Le chemin de notre deuil. Ça aurait duré, quoi, 2 ans. Ça a duré 40 ans.
Il est pathétique. Il ne parle que de lui, 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 lui. Pour la victime de sa boucherie, pas un mot. Il en revient toujours à lui-même, à sa propre histoire.
Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe, monsieur Rambla, pendant les 30 minutes avant le début des coups et de l'égorgement?
Il n'y a rien qui me revient, monsieur. Moi, pour moi, j'ai fait un transfert. J'étais dans un autre monde. Je peux pas vous dire autre chose. Moi, à ce moment-là, je pense que je tue Gilles Perrault. Ce que j'ai rêvé de faire toute ma vie. Mais je le fais ce jour-là.
Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé tuer Gilles Perrault?
J'envisageais une confrontation avec Gilles Perrault à la sortie de ma peine de prison. J'avais fantasmé de le tuer. J'en ai souvent rêvé. Mais du rêve à la réalité, il y a un monde.
Arrive le dernier jour du procès. Le réquisitoire de l'avocat général qui réclame perpète. Et puis la plaidoirie de son avocat.
Monsieur Ramblin, levez-vous, je vous prie. Vous souhaitez dire un dernier mot?
Oui. Ce que j'ai vécu, c'est difficile à expliquer. Moi, elle me manque. Et j'ai toujours ressenti une culpabilité, même si on m'a dit que j'étais un gosse. Marie Dolores, elle m'accompagne toujours. Enfin, qui dans cette salle a dans son portefeuille la photo de la tombe d'un être cher? Qui? Eh bien, moi, j'ai la photo de la tombe de ma sœur dans mon portefeuille. C'est pas normal. Après, je sais, ça sert à rien. Alors, jugez-moi en votre âme et conscience. Et puis, je voulais dire que je suis désolé si j'ai pu toucher la sensibilité de monsieur et madame Lumumba. Mais sachez que Cynthia est un ange maintenant. Et elle veille sur votre famille.
Mais quelle maladresse! Quel manque d'empathie pour cet homme et cette femme dont la fille a été égorgée par lui! Il dit ça comme s'il était extérieur au drame. Il dit ça comme un curé. Il est condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté. La peine maximum. Il ne bouge pas. Pas un signe, pas une émotion. Il se tourne vers son avocat.
Je pense qu'on va faire appel. J'aurais tellement aimé raconter ma vie en entier.
Et il a fait appel. Et sera donc rejugé par une cour d'assises. En droit donc à ce jour, il est présumé innocent. J'ai tiré cette histoire de la série documentaire de Canal+, réalisée par Julien Seri, Dolores, la malédiction du pullover rouge, disponible désormais sur la plateforme MyCanal. Les 3 épisodes de notre série de podcasts consacrés à cette affaire sont disponibles sur l'ensemble des applications.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.